que prévisible. Une nation qui abandonne son Dieu est une nation qui se livre à la perversité du monde. Nous en revenons à la parabole des deux fils. L'un a voulu conquérir le monde, il n'a fait que conquérir les prostituées. L'autre fils, c'est Luc 15 évidemment, l'autre fils, lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu se donner, se dévouer à son père. Mais il a oublié une chose, que la motivation du dévouement, est-ce pour s'élever auprès de son père? Ou bien est-ce parce qu'il puisse sa motivation au travers de la relation, de la communion, de l'amour du Père pour lui? C'est la question. La source de notre motivation dans les choses, aussi dévouées que nous puissions être, la source de notre motivation révèle si nous sommes religieux ou pas religieux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous pouvons apporter des paroles dures à un frère et une sœur pour l'aider à se redresser, pour le mettre en garde parce qu'il est en danger. Et si ces paroles dures viennent d'un cœur de père pour l'aider à se relever, parce que c'est un cri des pères pour dire « mais nous ne voulons pas que tu périsses », alors ces paroles sont légitimes. Mais si les paroles dures de quelqu'un à l'égard de quelqu'un sont un jugement et une condamnation, eh bien, voilà le comportement religieux par excellence. L'homme religieux cherche toujours sa propre justice à partir de ses propres œuvres. L'homme qui marche par l'esprit, l'enfant de Dieu qui marche par l'esprit, a été rendu juste par le sacrifice de Jésus à la croix. Il a été rendu juste. Et au travers de la justice dont il est au bénéfice, même si dans ce monde il est soumis à des injustices, il sait qu'au travers de la justice de la croix, qui lui a été accordée une fois pour toutes, il sera plus que réhabilité. Dans sa souffrance, il prolonge les souffrances de Christ. C'est pour ça, Paul dit, mon but c'est de connaître Christ. J'aime beaucoup, énormément ce verset. Ceux qui me connaissent bien l'entendent chaque fois que je dis. Mon but c'est de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Parce que Dieu veut libérer les signes, les prodiges et miracles. Dieu veut que nous soyons des témoins permanents de sa résurrection. Et mon but c'est de connaître et la communion à ses souffrances. La communion à ses souffrances, c'est la confrontation que nous avons dans le monde, face à la perversité du monde, à l'injustice du monde, au monde qui nous refuse, il ne peut pas nous accepter. Hein, relisez Hébreux 11, Hébreux 12, les témoins, cette nuée de témoins, le monde n'était pas digne d'eux, n'est-ce pas? Et au travers même de notre témoignage, nous prolongeons les souffrances de Christ. Et c'est pour ça que c'est pour cela qu'il y a dans notre témoignage, dans notre vie en Christ, il y a deux types de souffrances. La souffrance qui est le fruit de nos péchés, de notre manque de sagesse, ou des péchés de nos ancêtres, liés à des liens générationnels, ou c'est une souffrance qui est le fruit de notre engagement pour Christ, de notre consécration. Et cette souffrance-là apporte une extraordinaire prospérité. Je racontais à Naples ce qu'était la prospérité. La prospérité dans l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est l'abondance, ce sont les richesses. Les richesses, on le voit avec Abraham, Isaac, Jacob, Job, Joseph. Ils sont la prospérité, la richesse et le fruit même de la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse. C'est celui qui a tout perdu. C'est celui qui est dépouillé à cause de sa foi. C'est là la définition de la prospérité dans le Nouveau Testament. Et je le regrette sincèrement de cette erreur doctrinale qui vient de grands ministères aux États-Unis, qui oublient que la prospérité est toujours, et là il y aurait parmi vous, je peux les regarder, j'en vois ici, j'en vois d'autres qui pourraient le témoigner, la prospérité passe toujours par un dépouillement, par une mort à soi, pour laisser la vie de Christ s'épanouir. Non pas parce que Dieu veut que nous développions l'esprit de pauvreté, loin de là, mais c'est le fruit de notre vie en Christ qui alors fait de nous qui nous permet de régner. C'est à travers la richesse de Dieu dans notre vie, alors que nous pouvons prospérer dans les finances, dans les richesses, etc., etc. Attention, la prospérité, c'est d'abord une mort pour passer à une résurrection. Et c'est très, 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 très important de dire cela, sinon nous allons tromper la nouvelle génération. Non. Vous pensez toujours à Joseph qui était à côté de Pharaon, mais une partie de la vie de Joseph, 10 ans, 15 ans, nous ne le savons pas, a été dans les prisons du Pharaon. Vous voyez, nous pensons à la prospérité de Job, mais, vous voyez, et notre vie en Christ, c'est aussi un passage, hein, un passage où Dieu nous amène un dépouillement afin de nous faire prospérer des vraies richesses, de la vraie abondance qui est spirituelle, de la plénitude de Christ. La prospérité matérielle est dépendante et secondaire. Ce qui est prospère en premier, c'est la plénitude de Christ en nous. Et de cette plénitude de Christ, et nous le voyons dans Philippiens 4, quand Paul dit « Je me suis contenté de tout, j'ai été dans l'abondance comme j'ai été dans le dénuement », c'est au travers de notre témoignage, que ce soit dans le dépouillement, que ce soit dans la richesse matérielle. Parce que certains parmi nous ont un ministère pour s'enrichir matériellement. D'autres ont un ministère où la prospérité est dans l'intercession. La prospérité va s'exprimer de différentes manières. Quoi qu'il en soit, Jésus est clair, il a dit, celui qui a quitté père, mère, enfant, famille, ils auront multitude au ciel et sur la terre. Parce que le témoignage d'un enfant de Dieu, c'est aussi de manifester l'abondance de Dieu, même dans le matériel, dans sa vie. Amen. Mais la prospérité commence par dépouillement. Et plus nous acceptons ce chemin étroit, plus nous nous enrichissons d'abord des biens spirituels, mais aussi des biens matériels. Amen. Alors, ce soir, ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi je vous ai parlé de l'esprit religieux, parce que c'est une guerre. Nous sommes entrés dans un nouveau niveau de guerre. Nous sommes entrés en 2014 dans une rupture qui va être radicale au milieu des enfants de Dieu. Et nous ne voyons pas, je l'ai déjà dit les années passées, il y a une ligne de démarcation entre ceux qui, même s'ils sont religieux, mais ils ont soif de Dieu, ils sont prêts à s'humilier, ils sont prêts à aller vers le Seigneur. Et d'autre part, ceux qui, face à la peur de l'islam, face à quoi ? À la peur des lois sur le genre, face à quoi ? À toutes sortes de choses, ils vont essayer de se regrouper. Derrière, il y a un mouvement d'unité qui est en train de se lever. Il y a un mouvement d'unité. Et cette unité n'est pas fondée Elle part de bonnes intentions, mais c'est une unité qui veut rassembler les chrétiens, qui veut les amener à vivre la bénédiction d'Élie, hein, pour réconcilier le cœur des pères avec les fils, et le cœur des fils avec les pères. Mais cette unité, est-ce qu'elle est de Dieu? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Eh bien, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, vraiment. Il faut bien comprendre que l'esprit d'Élie, il est libéré par la voix prophétique. Dieu parle à travers ses prophètes. L'esprit d'Élie, qu'est-ce que l'esprit? Premièrement, c'est de ramener le cœur des pères. C'est-à-dire, c'est de prévenir la génération des temps qui vont arriver, la dureté des cœurs, d'amener la génération présente aujourd'hui à quoi? Eh bien, retrouver les chemins des pères. C'est ça qui est important de le comprendre. Et les chemins des pères, ce n'est pas de créer une super église. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de repentance. C'est le seul chemin sur lequel les chrétiens sont appelés à revenir, c'est le chemin de la parole. C'est le chemin de la parole. C'est revenir à la parole de Dieu. Revenir à ceux qui ont été les témoins et qui ont témoigné dans la parole. Les prophètes ont parlé. David, les apôtres ont parlé. Et revenir au cœur des pères, c'est d'abord revenir à la parole. Ensuite, c'est revenir à, pas seulement à la parole, bien entendu, mais revenir à la parole, ça veut dire quoi? Revenir à ce que la parole demande. Et ce qui est au centre de la parole, c'est quoi? C'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Revenir, l'esprit d'Élie, c'est quoi? C'est de revenir à quoi? À la parole, à l'œuvre de rédemption que Jésus a accomplie à la croix. Ok, c'est revenir à où encore? C'est 2 Chroniques 7,14, se repentir des œuvres mortes, c'est revenir à quoi encore? Eh bien, c'est entrer dans la vie de l'esprit. Voilà l'esprit d'Élie. C'est réclamer au travers de la vie de l'esprit le manteau de nos pères. C'est réclamer, c'est entrer dans un, d'être renouvelé par l'Esprit Saint pour que de nés de nouveau que nous sommes, Dieu véritablement est en train de créer l'homme nouveau dans l'Église. Collectivement parlant, l'homme nouveau est en train de se lever. Et pour cela, eh bien, nous passons par le chemin de la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et puis, nous passons par quoi d'autre? Nous passons par l'adoration. Amen. C'est important de comprendre cela. Donc, un autre chemin, prêcher l'unité à partir du message de Malachie, l'unité, elle a été scellée au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. La seule unité à laquelle nous sommes appelés, c'est unir notre cœur à celui du Père. C'est cette unité-là. Donc vous voyez, il y a une séduction qui est en train de venir. Je voudrais vous parler du pape ce soir. On a dit beaucoup de choses sur le pape François. Je crois profondément que le pape François est une grande bénédiction pour l'Église catholique romaine. Parce que c'est le premier pape qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit au travers du témoignage des mouvements des églises de Pentecôte en Amérique du Sud. Et quand ce pape a été élu, je me suis énormément réjoui pour l'Église catholique. Parce que je crois que ce pape, et on le voit énormément en Italie, mais on le voit dans le monde entier, de nombreux catholiques font l'expérience du baptême du Saint-Esprit à l'heure actuelle. C'est impressionnant. De nombreux catholiques sont en train d'avoir une révélation de Jésus d'une manière extraordinaire. Et le pape actuellement invite toute l'Église catholique romaine, à revenir au baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il est vraiment le serviteur que Dieu a envoyé pour l'Église catholique romaine. Après lui, Ça a été prophétisé, ça a été annoncé, l'Église catholique va s'effondrer dans la confusion. Il est véritablement le dernier pape, il est véritablement, non pas parce que l'Église catholique n'existera plus, mais à partir de ce pape, l'Église catholique va complètement être changée. Et elle deviendra, entre guillemets, ingouvernable. Il y a, d'après des prophéties, un tout dernier pape qui ne résidera plus à Rome, qui sera d'origine juive et qui mourra martyr. Et qui sera d'ailleurs remplacé par un faux pape qui va créer une grande alliance. Mais ça, on va laisser ça de côté, on n'en est pas encore là. Il est vraiment le dernier pape, en quelque sorte, ou que le Seigneur reconnaît, que le Seigneur, où le Seigneur pose encore sa main. Mais ce n'est pas parce que je dis que le pape François est une bénédiction de Dieu pour l'Église catholique que je vais approuver sa doctrine et ses positions. Voyez-vous la différence ? Je crois qu'il faut que nous comprenions aussi une chose. D'un côté, il ouvre une porte à l'Église catholique romaine. Parce que derrière l'Église catholique romaine, comme derrière les églises historiques, il y a toujours la doctrine comme quoi le Saint-Esprit a été donné à l'Église primitive seulement. Et que maintenant, les miracles passeront, seuls, la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Donc c'est la présence, le témoignage de ce pape est en train de briser une fausse doctrine sur la fin du baptême du Saint-Esprit à la fin de l'Église primitive. Ça c'est juste. Mais ce pape va aussi ouvrir des portes qui peuvent être aussi une séduction pour les années qui viennent. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Là, avec le soutien d'évêques, de docteurs en théologie, d'églises anglicanes, il y a en Amérique du Sud, aux États-Unis, à l'heure actuelle, ces tout derniers mois, il y a des tournées où il y a actuellement des érudits, des théologiens, des ministères charismatiques qui sont en train, effectivement, de se tourner vers l'Église catholique romaine et rentrer dans l'Église catholique romaine. Sous prétexte qu'il y a un érudit qui voyage beaucoup, qui a rassemblé des centaines et des centaines de ministères aux États-Unis et qui vient de dire il n'y a plus la controverse entre l'Église catholique et l'Église protestante. C'est terminé. Hein ? Il n'y a plus de controverse parce que l'Église catholique reconnaît que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et que nous sommes appelés à accomplir des œuvres bonnes. Et c'est vrai, l'évolution du langage, les termes, le mot grâce dans l'Église romaine, dans la doctrine romaine, n'est pas du tout la même comme nous l'entendons. On ne peut pas rentrer dans ces débats de fond. Ça, on n'en a pas le temps, ça ne nous intéresse pas. Mais aujourd'hui, la controverse entre les protestants, ce qu'on a appelé la controverse pendant les siècles, c'est-à-dire la discussion, le désaccord théologique fondamental sur le salut par grâce au moyen de la foi, il n'y en a plus. Les théologiens protestants, les théologiens catholiques ont en quelque sorte clôturé la controverse sur le salut par grâce au moyen de la foi. Alors en fait, pas du tout, je ne crois absolument pas, pour la simple raison que l'Église catholique romaine ne reconnaît pas, toujours pas, au XVIe siècle comme au XXIe siècle, l'autorité souveraine des Écritures comme fondement de la foi. Alors, de toute manière, même si la controverse entre protestants et catholiques est terminée, ce que je ne crois pas non plus, de toute manière, le fondement même de notre foi, fondé sur l'autorité souveraine des Écritures, est terminé. Il faut dire aussi que les protestants, à travers les siècles, font une relecture de la Bible qui est tout à fait différente de celle de Luther et de Calvin. C'est ça le problème aussi. ils reconnaissent une tradition dans l'Église. Donc, en fait, à l'heure actuelle, en 2017, on fêtera les 500 ans, les 50 ans de la libération de Jérusalem, mais aussi les 500 ans de la réforme protestante avec les 95 de Luther. Et aujourd'hui, ces derniers mois, c'est officiel, il n'y a plus de controverse. C'est quelque chose qui est d'ailleurs extraordinaire. Au bout de 500 ans, il n'y a plus de contradictions, de controverses, de débats, de désaccords théologiques de fond entre les catholiques et les protestants. Alors qu'en fait, si nous restons dans l'héritage de Luther et de Calvin, si nous restons sur les fondements de foi du XVIe siècle et de ceux qui sont restés dans la lignée des réformateurs, soit dit en passant, ce sont les mouvements évangéliques, eh bien, la controverse est là, par rapport au culte de la Vierge, par rapport au culte des saints, par rapport même à la pratique de la scène, par rapport même à la théologie même de l'Église. Pour l'Église catholique romaine, l'Église catholique est née quand Jésus crucifié a dit à Marie, « Mère, voici ton fils », en désignant Jean, et « Fils, voici ta mère ». Alors que dans l'Église, alors que dans la définition de l'Église, l'Église ecclésia, c'est l'assemblée des élus qui a été fondée au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pas au pied de la croix que l'Église est née, c'est au travers de la croix qu'elle est née. Et pour faire de nous des nouvelles créatures. Et là, Jésus donne sa définition dans Matthieu 16, 18. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu es Pierre, sur le roc que je suis, je bâtirai mon Église, mon ecclésia. Les portes du séjour des morts ne prouveront pas qu'elle, contre elle. C'est-à-dire que la nature même de l'Église, elle est composée de pierres vivantes que nous sommes, et nous sommes des pierres vivantes parce que, au travers de quoi ? Au travers du salut que nous avons reçu dans la mort et dans la résurrection de Jésus, et nous sommes des nouvelles créatures. Donc la controverse, si on regarde plus profondément, elle est beaucoup plus vive même. Sur certains points, elle est peut-être moins, mais sur d'autres, elle est. Et l'un des points les plus épineux de la controverse, c'est la place que l'Église romaine a donnée à Marie comme co-rédemptrice. Ça, c'est une remise en question radicale de l'autorité souveraine des Écritures. Mais pourquoi cet appel à l'unité du pape fait tellement de bruit ? Pourquoi ce sont justement les églises charismatiques et pentecôtisantes, des fédérations aux États-Unis, des apôtres, pas tous, attention, hein, je tiens à vous dire pas tous, mais un certain nombre. Combien, j'en sais rien. En tout cas, ils sont des centaines à avoir applaudi, j'ai vu le... Pourquoi se font-ils piéger ? Parce que dans nos milieux de Pentecôte, nous devons être extrêmement attentifs au témoignage de nos pères. Parce que dans nos milieux de Pentecôte, nous devons être attentifs, parce que nous ne devons pas, sous prétexte que nous sommes nés baptisés du Saint-Esprit, nous devons marcher par l'Esprit. Mais mes amis, je vous prie de m'excuser, nous marchons par l'Esprit à la suite des pères de nos pères. À la suite de nos pères. Nous prolongeons leur témoignage. C'est une énorme différence. Nous restons à la suite. Ça ne veut pas dire que nos pères avaient tous raison. Ça ne veut pas dire que la théologie de Calvin, je l'accepte totalement. Non ! La prédestination, je ne l'ai jamais comprise. Je ne l'accepte pas. Et puis, il y a des passages sur le retour de Jésus, les prophéties bibliques. Calvin ne pouvait pas les interpréter. Il disait d'ailleurs que ce soit le prophète Daniel ou Ézéchiel, je crois qu'il y a trois prophètes, ou l'Apocalypse, Calvin ne les a jamais commentés, parce qu'il a dit nous ne pouvons pas commenter cela, nous ne pouvons pas les comprendre, parce qu'on n'est peut-être pas dans le temps de la révélation des prophéties, du temps de Calvin. Mais quand on lit Daniel 12, chapitre 2, verset 4, qu'est-ce que l'ange dit à Daniel, scelle, autrement dit ferme, le rouleau de la prophétie jusqu'au temps de la fin, alors la connaissance augmentera. Mais aujourd'hui, depuis la renaissance de l'État hébreu, depuis la libération de Jérusalem, les rouleaux de la prophétie dans les lieux célestes sont décellés. Et la connaissance n'a pas cessé d'augmenter depuis 60 ans, gloire à Dieu. Mais la connaissance augmente ne signifie pas que les révélations que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans le domaine des songes et des visions, ou que ce soit dans le domaine de l'interprétation des prophéties bibliques, ces révélations n'annulent en rien l'esprit dont nos pères étaient animés. Et c'est ça. Je ne suis pas d'accord sur certaines positions de Calvin sur le prophétisme. Je ne suis pas d'accord sur la théologie du remplacement de Luther et de Calvin, etc. etc. On ne peut pas, parce que chaque génération, Dieu ouvre les yeux. Et Dieu nous a ouvert les yeux. Alléluia. Mais cela ne signifie pas que ce que Luther et Calvin ont apporté, nous annulons leur travail, leur témoignage. Non, parce que c'est grâce à leur témoignage que, et à la suite de Luther et de Calvin, il y a eu qui ? Il y a eu un John Wesley, il y a eu le mouvement évangélique, il y a eu Spurgeon, etc., etc. Suis-je d'accord avec tout ce qu'écrit Spurgeon ? Je viens de lire quelque chose sur Spurgeon. Je suis surpris, parce que c'est quelqu'un de merveilleux. Je ne suis pas toujours d'accord. Mais ce que je sens, c'est Spurgeon. C'est un homme de Dieu qui avait une sagesse extraordinaire, qui avait une définition de la sanctification qui était remarquable. Hein ? Bon, eh bien, c'est cela. C'est cela que nous devons retenir. Donc cette séduction qui est en train de venir, c'est au nom, puisqu'il n'y a plus de controverse, c'est un amalgame, alors nous sommes unis. Mes amis, si nous sommes ce que le Seigneur, si nous voulons être unis, ce n'est pas en rejoignant une fédération, en rejoignant une structure, hein, quelle qu'elle soit, quand bien même l'Église catholique romaine changerait complètement de doctrine, hein, les pères, nos pères, parce que c'est ça, ils reprennent le message de Malachie 4 pour dire, voilà, c'est le temps prophétique de la réconciliation des pères avec les fils. Sous-entendu, les pères, c'est les catholiques, et les fils, c'est nous. Mais non, les pères, ce ne sont pas les catholiques, c'est qui ? Ce sont les messianiques, ce sont les juifs messianiques. On a l'impression d'oublier aujourd'hui que l'Église primitive, dans ses premières décennies, ses 50 premières années, était essentiellement juive. Alors pourquoi allons-nous rayer l'histoire de cette manière ? Pourquoi allons-nous rayer ce que tout le travail, tout le témoignage, toute la souffrance aussi de nos pères ? Afin que notre génération, nous avons été engendrés par nos pères, alléluia. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons été au bénéfice de leur témoignage, de leur souffrance, de leur rayonnement spirituel. Amen. Donc la séduction, elle est là, elle est latente. Et quand le pape François a parlé qu'il donne comme témoignage, comme un appel à l'unité, que nous sommes comme comme Joseph avec ses frères, sous-entendu, c'est lui Joseph. C'est l'Église catholique. Mais je ne vois pas à quel moment les protestants et les catholiques ont jeté les catholiques dans une fosse et ont rendu les catholiques esclaves. Joseph a été vendu par ses frères. Nous n'avons pas vendu les catholiques. C'est plutôt les catholiques qui nous ont vendus dans la persécution. Non mais, vous voyez ? Et tout le monde s'est levé pour applaudir. Vous voyez, et il l'a dit avec son cœur, le pape François est un pape que je respecte profondément, et il a dit, mais je suis un homme simple, je vous donne cet exemple, mais s'il vous plaît, l'exemple même du pape François n'est pas du tout adéquat, n'est pas du tout même prophétiquement. C'est un exemple qui est justement par excellence l'exemple qu'il ne faut surtout pas prendre pour appeler à l'unité. Si on creuse un peu l'exemple qui est donné, surtout pas. Parce que Joseph, il a quand même servi dans la maison de Pharaon. Hein, Joseph, en tant que bras droit de Pharaon, il portait une tiare. Vous allez me dire, ça ressemble aux cardinaux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais quand même, Joseph était dans la maison de Pharaon. C'est un retour à la maison de Pharaon. Et si on retourne dans la maison de Pharaon, rappelez-vous que la descendance de Joseph, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Esclave pendant 400 ans. Donc l'exemple du pape me paraît très douteux. Vous voyez ? Ça nous en renvoie à l'esclavage. Voilà l'exemple qu'il a donné. Waouh, j'étais frais. Mais personne n'a réagi. Il y a comme aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, je peux prendre la sacoche. Je voudrais citer ce que saint Augustin disait déjà en 430. Il y a mon carnet, mon petit carnet rouge. Que je laisse. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Ça fait 30 ans que ça dure. Il n'y a rien. Amen, amen. C'est fou. On peut avoir du discernement avec le ciel. On peut contempler la Jérusalem céleste et on est incapable de contempler sa valise. Mais c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Il faut se résigner de ce que nous sommes en espérant que le Seigneur nous améliore et en mettant à nos côtés des personnes qui a... C'est pour ça que d'ailleurs, je vous l'ai toujours dit, je l'ai répété, j'ai un contrat avec ma femme, elle s'occupe des choses terrestres et moi des choses célestes. On essaie d'être complémentaires dans ce monde-là. Amen. Mais voilà, j'ai pas mon carnet, j'ai tout marqué sur mon carnet, voilà. Eh bien c'est comme ça, on se passe de carnet. Heureusement Dieu m'a donné une mémoire et une tête, alors elle essaie de tenir debout, c'est tout ce qu'on peut. Amen, gloire à Dieu. Et saint Augustin disait, à force de voir, on tolère, à force de tolérer, on accepte, à force d'accepter, à force de voir, on tolère, à force de tolérer, on accepte, et à force d'accepter, on finit par être pleinement d'accord. Eh bien, on est cette génération-là qui voit de tout, qui voit des horreurs, qui voit des abominations, qui voit tout. Et à force de voir, eh ben, on finit par dire pourquoi pas. Et enfin, à force, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est la destruction. C'est le chaos. Et c'est cela. Nous sommes, je peux dire que la génération ou les générations du 21e siècle sont les générations qui préparent le chaos. Mais Dieu est bon. Oui, parce qu'on accepte tout. On accepte. Au nom de la tolérance, on est dans la démesure de tout. Et cette démesure est destructeur. C'est destructeur. Et cette démesure est destructrice, mais au travers de cette destruction, au travers de ce chaos, on amène quoi ? On amène des hommes, des femmes absolument écœurés. Des hommes et des femmes qui... C'est comme si, dans la boue, dans la... Je suis poli, rassurez-vous. J'ai rien dit, c'est enregistré. Hein. Dans tout ça, eh bien, au milieu, il y a un peuple, il y a des hommes, il y a des femmes, même pas croyants, qui disent, mais Seigneur, y a-t-il un Dieu ? Y a-t-il, à force de tout accepter, vous ouvrez le poste de télévision, mais qu'est-ce que c'est niais ? Mais est-ce que c'est bête ? Mais qu'est-ce que c'est godiche ? Mais qu'est-ce que c'est... Mais vous êtes là, chanagalada, alors vous êtes toujours en train de faire des grands mouvements devant votre poste de télévision, chanagalada, ah je lis ça, je brise cette parole, mais c'est pas possible, tu survis pas, appuie sur le bouton et puis on n'en parlera plus. Mais c'est la gloire de la bêtise humaine. Je veux dire, mais comment ose-t-on faire des émissions pareilles? Mais comment? Mais je veux dire, tu peux plus aller dans une salle de cinéma. Tu vas te lever pour lier les démons. Au moment où il y a une scène abominable, tu peux plus. Inutile de déranger les anges et le ciel tout entier. Non mais. Et on finit par s'habituer. On finit par accepter ça. Il y a des violences. Je me souviens, mes neveux m'avaient traîné dans voir un film. Mais j'ai failli sortir de la salle parce que je faisais trop de bruit. Monsieur, on ne comprend pas quelle langue vous parlez, mais en tout cas, on comprend que vous faites du bruit. Parce que c'était un nom comme Avatar. Mais quelle horreur! Alors vous êtes là avec la main, alors baissez vos mains, monsieur, on ne voit plus le film. Vous êtes là... C'est épouvantable. Non, mais vous êtes là, il y a des scènes abominables. Vous êtes là, vous mettez vos mains sur... Je mettais mes mains sur les yeux. Mais vous n'allez pas au cinéma pour vous mettre vos mains comme ça. Enfin. Et après, oh Jésus! Alors, tu déranges. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu sors complètement cassé. Tu dis, oh là là, comment je puis survivre? Non, mais c'est horrible. Alors... Mais attendez, c'est atroce ce film. Vous êtes toute la nuit à prier, mais il y a des images qui sont violentes. Vous pouvez pas dormir. Moi, je sais pas comment les gens peuvent voir des films comme ça. J'ai dit, mais où est-ce que vous m'avez envoyé? C'est une monstruosité, ce film. Ah, tout le monde dit, mais c'est brave, c'est très bien. J'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit, oh oui, des petites scènes, oui. Mais c'est horrible, enfin. C'est atroce. C'est une monstruosité. Et derrière, il y a toute la philosophie du New Age. Alors, vous êtes là. Les gens vous regardent. Vous êtes... C'est vous le cinglé. Vous êtes... Mais qui êtes-vous? Mais il est fou, ce gars-là. Mais il est complètement... Mais il est barjo, ce gars-là. J'étais peut-être barjo, mais ce que je voyais, c'était encore plus barjo que moi. Non, mais attendez, je vous fais rire, mais... Et puis alors, vous sentez l'épaisseur des monstres. Derrière, ce sont des monstres. Mais c'est terrible, ce film. Et puis, il y a une c'est une parodie de la résurrection. Ça, c'est... Et alors, ces esprits qui changent de corps, mais c'est atroce. Chandel, tu lis ça au nom de Jésus, mais tu reviens effondré à la fin. Ah non, je suis sorti complètement, pas cassé, mais j'ai dit, attends Seigneur, qu'est-ce que j'aime. Ça a été la dernière fois que je suis allé dans une salle de cinéma. Il faut te dire que je n'y ai pas retourné. Non, mais moi, je ne peux pas. J'ai passé toute la nuit à prier. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces images? Seigneur, tu les effaces, ton sang les efface de ma mémoire. C'est atroce. Alors, on m'a dit, alors mes neveux m'ont dit, oui, alors tu es peut-être un petit peu vieux. J'ai un peu ceci. Moi, mes amis, non mais attendez, mais vous avez vu la pensée philosophique qu'il y a derrière, le culte des ténèbres qu'il y a derrière ce film. Et c'est pas parce que j'en parle que vous allez vous précipiter pour voir ce qu'a vu le prophète, s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais voyez, on s'habitue, on finit par accepter. Et un jour, on va finir par accepter l'inacceptable. Et on va accepter la marque de la bête, évidemment. Alors à ce moment-là, il est grand temps de se réveiller. Et il est grand temps de se réveiller, parce que ça y est, maintenant la ligne de démarcation, elle est en train d'être tracée. Et ce n'est pas dans un an, dans deux ans ou dans trois ans. C'est trop tard dans... 3 ans. C'est maintenant. Nous sommes dans une extrême urgence des événements. Je le dis partout où je passe, 2017, tu vas vivre dans les décennies qui viennent les conséquences de ce que tu as vécu entre 2009 et 2017. Tu vas vivre les conséquences. Alors, on va dire, mais oui, ceux qui ne sont pas convertis. Ben, ceux qui sont convertis, les chrétiens qui n'ont pas compris l'urgence des temps, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas vivre le fruit après 2017, tu vas vivre les conséquences de ta vie. Et quelle est ta vie entre 2009 et 2017? Quelle est ta vie? Ta vie doit être une vie de consécration, de sainteté, de communion fraternelle, d'adoration. C'est ce que les prophètes disent tous aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, et on n'est plus en 2009 déjà, c'est fini, on est déjà en 2014. Après, tout sera... Pourquoi je dis à partir de 2010? Mais tout va être ébranlé. Tout va être ébranlé. Ceux qui analysent les plaques tectoniques, ils le savent. Ils le savent. Pendant 200 000 ans, la Terre n'avait que 12 plaques tectoniques. Elle en est à sa 15e ou à 16e plaque tectonique. Les fonds marins sont en train de se séparer pendant qu'on est en train de parler. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, qu'en 2013, ça je ne sais pas pour maintenant, je n'ai pas de nouvelles, la Terre, écoutez-moi bien, la Terre, la France elle-même, n'a pas cessé de trembler pendant toute l'année 2013. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Parce que je sais pas, c'est pas en regardant le film Avatar que j'ai vu ça. Ok, bon. Elle n'a pas cessé de trembler. Et ces plaques sont en train de se multiplier. Et on est en train, 200 000 ans après, ça n'a pas bougé pendant 200 000 ans. Et c'est en train de bouger. Les scientifiques sont allés alerter les principaux gouvernements de la Terre pour avertir, de prendre des mesures par rapport aux secousses sismiques. On le sait. Donc, qu'est-ce qu'on sait encore? On sait qu'il y a des manifestations dans les astres extraordinaires. Extraordinaires. Vous allez voir, au mois d'août, vous allez voir des phénomènes au niveau des comètes extraordinaires. Et ça va même se prolonger en septembre 2014. Vous allez voir des phénomènes, on va le signer. Il paraît qu'il va y avoir une pluie de comètes comme jamais il n'y en a eu. J'ai entendu ça récemment. Je n'ai pas plus de nouvelles que ça. En 2014 et 2015, à partir du 14 avril, on rentre... le 15 avril, le jour de Pâques, la Pâque juive, parce que quand je parle des fêtes, je parle des sept fêtes solennelles décrites dans Lévitique 23, qui est Pessah, première fête que Jésus a accomplie. Hein, Jésus a accompli. Jésus est l'agneau de Dieu. Les Juifs, la fête, parce que c'est la libération, la sortie d'Égypte. Okay, ils ont sacrifié l'agneau. Amen. Mais en fêtant, en sacrifiant l'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'ils annoncent. Jésus l'a accompli en donnant sa vie à la croix pour nous. La deuxième fête, la fête des pains sans... la fête des pains sans levain. Deuxième grande fête solennelle. Ne pas confondre les fêtes de l'Éternel de Lévitique 23 avec les fêtes juives, de la tradition juive, comme Pourim. Deuxième grande fête de l'Éternel, la fête des pains sans levain. Jésus a été enseveli. Il a donné sa vie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par son sang qui était versé. Il était enseveli à la croix. Nos péchés sont oubliés. Jésus est ressuscité le jour des prémices. Alors, l'empereur Constantin, en 350, nous a compliqué tout ça. Hein, on est d'accord. Et les protestants, il y a 500 ans, n'ont rien fait. Ils ont pensé que c'était Jésus est ressuscité, a fait des prémices. Il est les prémices. Il est le premier d'une génération. Il est le premier Adam. Amen. Ok ? C'est très important. Il a accompli cette fête. Ensuite, il y a Shavuot, c'est-à-dire Pentecôte. Jésus, et à la fois la parole faite chair, parce que Shavuot, les tables de la loi ont été données au Sinaï, ok ? À Pâques. Donc, c'est une grande fête solennelle. Mais c'est aussi le jour où Dieu, le Seigneur, donne la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est la quatrième fête que Jésus a accomplie. Quelle est la cinquième fête qui va être accomplie? C'est ce que les rabbins appellent la fête des trompettes ou du mariage du Messie, ou l'enlèvement des justes. C'est la fête de Rosh Hashanah, l'enlèvement des justes, à la rencontre du Messie. Amen. Ça, c'est important. C'est la prochaine fête que nous la célébrons, parce que nous célébrons la rencontre de l'épouse qui rencontre l'époux. hein, qui inaugure les noces de l'agneau dans le ciel. Les noces sont célébrées dans le ciel. Le festin sera célébré lors du retour de Jésus. Ok ? Ça, c'est la quatrième. La cinquième fête, Yom Kippour, Zacharie chapitre 12. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est lors du retour de Jésus, revient sur terre avec son épouse. Amen. Pour le festin, nous le revoyons aussi dans Apocalypse 19. Ensuite, encore une alors ça c'est la cinquième. Non, c'est la sixième, celle-là. La septième fête que le Messie n'a pas encore accomplie, c'est Soukhot, la fête des tentes. Nous vivons sous une tente, mais notre destinée, c'est que Jésus a dit, il y a une demeure, il y a plusieurs demeures. Notre corps de résurrection, c'est notre demeure. Amen. Alléluia. C'est plus une tente, c'est une demeure. Pourquoi c'est une demeure? Parce que ce sera un corps éternel. Alléluia. Amen. La fête de Soukhot, c'est une fête, c'est la septième fête, la fête c'est le Shabbat des fêtes. Elle s'accomplira lorsque les Juifs fabriquent des cabanes en branchage sur leur balcon ou dans leur jardin à Soukhot. Mais Soukhot est très importante parce que ça veut dire quoi? Nous sommes tous le tabernacle de Dieu, n'est-ce pas? C'est la fête de la présence de Dieu en nous. Elle sera fêtée pendant le millénium. Les nations enverront des délégations pendant cette fête. Les nations enverront des délégations où chaque délégation apporteront la gloire des nations à Jérusalem. Amen. Et c'est important ces fêtes parce que chaque fois qu'il y a eu des tétrades, c'est la septième tétrade qui est arrivée. Qu'est-ce que c'est une tétrade? C'est la lune qui est changée en sang. Joël chapitre 2. La lune sera changée en sang à la fin des temps. Hein ? On peut le lire là, dans ces jours-là, dans ces jours-là, verset 29 de Joël 2, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Il y a pendant la tétrade deux éclipses du soleil. Et ensuite, de ce jour-là est terrible, alors quiconque la lune et la lune en sang, le soleil se change en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable, avant l'arrivée. Donc c'est important, parce que depuis 2000 ans, il y a eu 7 tétrades. Une tétrade, c'est quoi? C'est 4 éclipses de la lune pendant 2 ans. 4 éclipses de la lune pendant 2 ans. Et ces 4 éclipses de la lune correspondent à 4 fêtes de l'Éternel. C'est extraordinaire. Elles correspondent aux 4 fêtes de l'Éternel. Et elles sont un message de Dieu pour Israël et pour les chrétiens. Parce que nous sommes greffés sur la racine juive. Donc c'est pour Israël d'abord. Et c'est à travers la parole de Dieu, c'est alors pour nous. Si nous sommes greffés sur la racine, sur les patriarches, au travers de la parole. Ok ? Et ça, c'est très important de comprendre. Et alors, ces 4 éclipses, elles correspondent au fait. C'est la septième éclipse depuis la naissance, depuis l'ère chrétienne, depuis la naissance, depuis la vie de Christ. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'analyser les dernières tétrades, les 4 éclipses. Je vous le dis, chacune de ces éclipses, la première correspond toujours sur ces 7. C'est complètement inouï. La première correspond toujours à la fête de Pâques, la Pâque juive, dans le calendrier lunaire. Parce que pourquoi cette tétrade, c'est-à-dire les 4 éclipses en 2 ans, concerne d'abord Israël? Parce que la lune concerne toujours Israël. Le soleil concerne les nations. La lune concernera, parce que le calendrier des Juifs, c'est-à-dire la gestion du temps, se fait avec le calendrier lunaire. Le calendrier des nations, la gestion du temps, se fait avec un calendrier solaire. Le calendrier lunaire commence le soir, quand la lune apparaît. Le calendrier solaire commence le matin, quand le soleil se lève. Okay ? Ça ne fait pas le même nombre de mois non plus. On rejoint à peu près à 360, entre 364 et 367 jours. Okay. Les Juifs ont des années, un mois de plus, le mois d'Adar, qui est doublé pour rattraper tous les, je ne vais pas vous dire, tous les 6 ans, je crois. Ben, alors, ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces 7 tétrades ont donc 14 éclipses de la Lune qui correspondent toujours à la première éclipse tombe le jour de la Pâque juive, la deuxième éclipse dans la même année correspond à la 7e fête de l'Éternel, c'est-à-dire à Soukhot. La troisième éclipse, il y en a 4, la troisième éclipse l'année suivante correspond aussi à Pâques, et la 4e éclipse correspond aussi à Soukhot, en sachant que les mois juifs sont beaucoup plus flexibles que les mois lunaires juifs sont plus flexibles que les mois solaires des nations. C'est absolument extraordinaire. Autrement dit, Dieu parle aux nations. Il parle d'abord aux Juifs. Il parle d'abord à Israël. Et chaque fois qu'il y a une éclipse, et il y a une tétrade, c'est un grand signification solennelle. Et c'est toujours en rapport avec Genèse 15, avec les 3 promesses que Dieu a faites à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham ? Il lui a promis un fils, et derrière le fils, c'est un peuple. Il lui a promis une terre, et derrière la terre, il y a un pays, la prospérité, où coule le lait et le miel, et il lui a promis, quoi d'autre ? Une alliance éternelle qui amènera à un règne de paix sur toute la terre. Ok ? Je ne développe pas ça, c'est toute l'alliance de Dieu avec Abraham qui s'est accomplie dans sa plénitude à Golgotha. Bon, c'est intéressant. Ça veut dire ça. Ça veut dire que Dieu est en train de dire ceci. Je donne des terres à mon peuple. Je lui redonne sa terre. En tout cas, je lui donne d'être conquérant sur la terre. Donc, vous voyez ce que ça veut dire pour Israël aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si son peuple est conquérant sur la terre, ça veut dire aussi qu'il doit passer par une nouvelle réforme, par une nouvelle alliance, un renouvellement d'alliance avec son Seigneur. Un retour à la Torah. Et rappelez-vous, ce que Pascal Ali est lui extrêmement important, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit depuis la destruction du deuxième temple. 600 000 juifs proclament, certains disaient millions, aussi nombreux que lorsqu'ils étaient au pied du Sinaï, c'était le 2 mars 2014, 600 000 juifs proclament leur alliance avec la parole à travers la Torah. Leur consécration. C'est d'une importance capitale. Ce qui se fait avec le peuple physique, cela a des répercussions pour le peuple spirituel. Vous imaginez cela. C'est extraordinaire. Et comme par hasard, c'est tombé sur la naissance de la petite fille d'un prophète. Vous croyez que c'est aussi un hasard, ça ? Et qui couine ça partout où il passe à travers le monde ? Parce que j'ai une langue bien pendue, mes frères, mes sœurs, vous le savez, vous me connaissez depuis si longtemps. Il y a quelqu'un qui a beaucoup ri là, mais je lui pardonne. Et c'est cela que ça veut dire. Ça veut dire quoi encore ? S'il y a une réforme en Israël, ça veut dire qu'il y a une réforme. Parce que il n'y a qu'un seul docteur de la parole qui le dit admirablement. S'il y a c'est Don Potter qui le dit, je ne sais plus qui. En tout cas, c'est Derek Prince qui le dit. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu fait quelque chose pour son peuple, il commence avec Israël. Et ensuite, ça a des répercussions. Chaque fois, la réforme protestante, elle s'est étalée dans l'Europe quand les Juifs ont été chassés d'Espagne et se sont installés avec l'accord avec l'accord à Istanbul, avec l'empereur des Turcs, j'ai oublié son nom, le sultan, oui, il l'a accordé. Près de 50 000 Juifs s'étaient installés à l'époque. Voyez, chaque fois qu'il y a quelque chose avec le peuple juif, il y a une répercussion spirituelle avec le peuple spirituel. Amen, amen. Alors que veut dire la tétrade? Elle est en rapport avec la terre. Elle est en rapport avec quoi? Avec l'alliance. Renouvellement d'alliance avec la parole. Pour nous, nous ne sommes pas le peuple de Pâques, nous sommes le peuple de Pentecôte. Pour nous, peuple de Pentecôte, cela veut dire qu'il va y avoir un extraordinaire niveau de gloire que Dieu est en train d'apporter. Et nous allons voir avec la septième tétrade qu'il s'agit de la moisson de la fin des temps. Parce que cette tétrade-là, elle est différente des six autres sur un point, vous allez le voir. Bon, deuxième promesse. Alors, on a parlé de la terre. On a parlé de l'alliance, une réforme de l'Église. Alliance, c'est-à-dire qu'il est très probable que dans les toutes prochaines années, il va y avoir une guerre en Israël. Et de nouveau, Israël va en conquérir des terres. C'est ça que ça veut dire, concrètement. Et puis, troisième chose, eh bien, cela veut dire pour Israël, quoi? Que le peuple, les fils vont se multiplier sur sa terre. C'est le peuple. Peuple, terre, alliance. Pour l'Église, répercussion, ce que Dieu fait avec le peuple spirituel, avec le peuple physique, qu'est-ce qu'il fait avec le peuple spirituel? L'alliance, c'est la moisson. Les terres, c'est quoi? Les nations, en héritage. Hein? Et en fait, les fils, c'est quoi? Eh bien, ce sont les multitudes qui se tourneront vers Jésus. C'est cela que signifie la tétrade. Je vais très très vite dans l'enseignement, mais la lune se change en sang. C'est-à-dire que Dieu avertit Israël, et les rabbins l'ont compris, Dieu avertit Israël que si tu te rebelles, si tu t'opposes à Dieu, alors ce sera des temps de douleur et des temps de souffrance et des temps de mort. C'est pour ça que souvent les sorciers voient l'éclipse toujours comme une annonce maléfique de ce qui se passe. Ben oui, ils ont intérêt. Mais nous, on sait que le sang, c'est pas l'éclipse, c'est le sang de l'agneau, évidemment. Pour les juifs, c'est quoi le sang? La lune se change en sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les sacrifices. Ça veut dire que s'ils ne reconnaissent pas Yeshua, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils sont appelés à passer par la repentance. Ok? Voilà ce que signifient les tétrades. Alors, regardons la quatrième tétrade qui était en 1294 et 1295. J'ai beaucoup de mal à trouver une recherche historique sur les trois premières tétrades. C'est dommage. Je sais que la première tétrade est en rapport avec est en rapport avec l'évangélisation de l'Église et probablement, je pense qu'elle a dû avoir lieu au moment de la première Pentecôte, un an après la première Pentecôte. Je pense que la deuxième, mais là encore, elle a lieu au moment de la naissance de l'Europe où les Juifs ont aidé à la construction de l'Europe occidentale. Mais je n'arrive pas, parce que je sais qu'il y a eu une tétrade dans les années 500, mais on n'arrive pas. Donc il y a une troisième tétrade, mais je ne peux pas faire d'analyse. En tout cas, la quatrième est en 1214-15. Et cette tétrade, il faut comprendre qu'il y a un jugement, il y a quelque chose qui vient, c'est-à-dire les nations, un des grands empires d'Occident avec le roi d'Espagne, va chasser les Juifs d'Espagne, qui va les contraindre à s'installer en partie en Israël et dans d'autres nations. Il faut comprendre qu'à cette époque, l'Espagne était énormément peuplée de Juifs. Énormément. C'est un nombre très très important. Et là, c'est aussi l'année, donc la tétrade apparaît un an après ces événements-là. Un an aussi après la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb qui était juif. C'est intéressant de savoir ça. C'est intéressant de voir que Dieu, en 1400, pas en 1200, merci, en 1492, et la tétrade a commencé, je crois, en 1494. Donc un an et demi, je ne vais pas, pardonnez-moi de me tromper, entre 6 mois et un an près, n'est-ce pas? Elle est après. Et donc on voit que 1492, c'est vraiment ce qu'on appelle le tout début de la Renaissance. Et nous voyons le résultat de cette tétrade amène aussi une bénédiction pour le peuple spirituel avec la découverte de l'imprimerie et la Bible va être publiée. Donc on voit aussi une grande bénédiction avec la réforme protestante qui arrive en 1517. La cinquième tétrade arrive un an et demi après, c'est-à-dire en 1949, donc il n'y a plus de tétrade pendant 500 ans, à peu près, même un peu plus si on regarde bien. Elle arrive un an et demi après la renaissance de l'État d'Hébreu et l'État hébreu. Et la victoire des Israéliens en 1948 face à 5 armées arabes. Et en même temps, cela arrive aussi, pour nous c'est intéressant, c'est le début d'une prise de conscience, il y a un mouvement de l'esprit avec les mouvements charismatiques, ce sont où les gitans, les tziganes, se tournent vers le Saint-Esprit, et c'est le mouvement de Pentecôte qui embrasse le monde dans la fin des années 40 et 50. Amen. Qui va donner naissance au courant charismatique. Et là, encore, nous sommes à la sixième tétrade qui arrive quand ? Un an et demi ou un an après la guerre des six jours. Et là, c'est vraiment le commencement du mouvement prophétique dans les nations. C'est le commencement de quoi ? On arrive à la fin de la conquête. Les nations vont être évangélisées jusqu'aux extrémités de la terre. C'est aussi l'extraordinaire victoire d'Israël. Même si la guerre de Kippour a été très douloureuse, Israël veut rester un peuple laïque. Israël va gagner la guerre du Kippour après, mais ce sera avec une perte effroyable parce que c'était l'équivalent de, je crois que c'est quelque chose comme 7%, 7 à 8% de la population a été tuée dans cette terrible guerre de Kippour. Donc, on voit aussi un jugement. Et là, c'est la même chose, mais cette septième tétrade, elle ne vient pas un an après les événements, elle arrive un an avant les événements. C'est la seule tétrade où on peut dire, depuis un an, deux ans, il ne se passe rien. À part que on est en train de flanquer des lois absolument iniques. Ça, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Qu'est-ce qui va se passer dans le courant de l'année ? Qu'est-ce qui va se passer en septembre 2014 ? Quelle est cette date ? On entre dans le calendrier juif. Parce qu'il faut comprendre que Israël, c'est la pendule prophétique de Dieu, c'est l'horloge prophétique de Dieu. Donc si on veut comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde, il faut comprendre ce que Dieu fait avec Israël. Et si on voit le comportement d'Israël, alors on va voir aussi ce qui se passe avec le peuple spirituel. Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je me tourne vers toi. C'est le moment, c'est la Shemitah qui commence, c'est ça ? C'est la Shemitah qui commence. C'est-à-dire, c'est le jubilé. C'est le jubilé. Jubilé, comment tu dis jubilé en hébreu ? Yuvel, jubilé, Pentecôte, ce sont les mêmes mots qui veut dire moisson. On redonne les terres, les dettes sont remises, c'est important. C'est le plus puissant jubilé que la terre va connaître depuis la naissance de Jésus. C'est le plus grand jubilé où les nations qui se sont enrichies, qui ont exploité, où les nations qui ont tenu en esclavage commenceront à rembourser. C'est la redistribution des terres. C'est tellement important ce que je vous dis que ça va même changer des frontières. Ça va même changer des frontières. Comment ? Ça, en septembre 2014. Donc cette tétrade, là, on pourrait dire que le jubilé... Le jubilé de quoi, au fait ? Le jubilé de la libération de Jérusalem. Ça, c'est important. Tout se compte sur le fait que Luc 21, verset 24, vous avez besoin de le rappeler, peut-être. Qu'est-ce que Jésus dit ? Hein ? Jérusalem sera investie par les armées jusqu'au temps de la fin. Luc 21, 24. Voilà. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis, seront parachevés. C'est-à-dire, qui va accomplir le temps des nations? Eh bien, c'est pas vrai. Qui va accomplir le temps des nations? Eh bien, c'est l'Église, en préparant la moisson finale de la fin des temps, revêtue de l'onction de gloire que Dieu va donner à ceux qui auront veillé et persévéré jusqu'au bout. Amen. Gloire à Dieu. Nous vivons des temps extrêmement importants. C'est important de comprendre ce qu'est l'esprit religieux. Parce que l'Église doit se dévêtir de l'esprit religieux, comme l'Église doit se dévêtir de l'esprit de Babylone. Mais là, le Saint-Esprit est en train. Nous sommes, entre 2009 et 2016, nous sommes ce que j'appelle dans le ramonage. Nous avons des épreuves, nous sommes éprouvés. En ce moment, il y a énormément de nuques qui ont été brisées, des gens qui ont des problèmes avec la tête, avec les épaules. Et moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est exactement l'inverse. Le Seigneur a guéri ma nuque et je peux maintenant la tourner. Le Seigneur a restauré le haut de mes épaules. J'ai boité pendant toutes ces années, j'avais ma jambe gauche, avait 2 cm de moins, voilà que le Seigneur la rallonge. Amen. De 2 cm. C'est rare que ça m'arrive, mais j'annonce qui est l'opposé de moi. Mais je crois que si Dieu me guérit, a complètement guéri ma nuque, je ne pouvais jamais faire plus que ça. Ce qui était très difficile en voiture, parce qu'en voiture, j'étais forcé de faire comme ça pour me retourner. C'est-à-dire complètement guéri mes épaules, complètement guéri le haut de ma colonne vertébrale, complètement guéri. Pourquoi le Seigneur? Parce que ce que vit le prophète, c'est quoi? C'est ce que le peuple de Dieu est appelé à vivre. C'est-à-dire, Dieu a brisé vos épaules. C'est-à-dire, derrière les épaules, il y a quoi? Il y a les fardeaux que nous portons. Les fardeaux de la vie nous brisent, quelque part. Pourquoi les fardeaux de la vie nous brisent? Parce que nous devons aujourd'hui apprendre à les confier au Seigneur. Ce sont ses fardeaux, ce ne sont plus nos fardeaux. Comme c'est important de comprendre cela. Sinon, les fardeaux vont vous briser. C'est ça la leçon que le Seigneur m'a dit. Je suis en train de redresser ta nuque, pas la nuque la nuque raide dont on parle dans la Bible. Je suis en train de guérir ta nuque parce que tu comprends enfin ce que cela signifie. Confie-moi ton fardeau et je te donnerai de porter mon fardeau. Ta vie, tes combats, ce n'est pas ton fardeau. Ça le sera aussi longtemps que tu n'abandonneras pas ton fardeau à Jésus. Arrête de dire j'ai ça, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai des problèmes d'âge. C'est le fardeau de Jésus. Loue le Seigneur pour remettre tes fardeaux à Dieu. Sinon alors, Dieu ne peut pas guérir tes épaules. Dieu ne peut pas guérir ta nuque. Dieu ne peut pas guérir ta colonne vertébrale. C'est aussi un message de 2014. Remettre les fardeaux à Dieu. C'est pour ça que j'appelle l'année 2014 l'année de la grâce. Parce que quand tu es gracié, tu lui remets tout. Parce que ta vie ne t'appartient plus, mais appartient au Seigneur. Tu lui remets ta vie, tu lui remets tes biens, tu lui remets ta famille et tu lui remets tes problèmes. Amen. Mais lui va te confier aussi ses problèmes. Il va te demander de porter ta croix, ses problèmes. Ok ? Il va demander de porter ses problèmes. Sais-tu que ce sont ses problèmes que tu as? Et quand j'ai compris ça, le Seigneur a dit, voilà, désormais, tu peux tourner la tête. Désormais, ta jambe peut se rallonger. Pourquoi le Seigneur me guérit ma jambe? Parce que la prochaine attaque qui va arriver est en rapport avec les jambes et particulièrement les mollets et les pieds. Et il faut prier pour nos pieds. Parce que quand tu confies tes pardons, tu es appelé à entrer dans l'obéissance. Tu dois marcher courageusement sur la route du Seigneur en portant les fardeaux qu'il te confie. Waouh! Alors si vous avez eu une épaule brisée, une nuque brisée, moi au fil du maître, ça a été l'hécatombe. Hein. on a plus de 12 personnes qui sont éprouvées. Et je sais que chez vous aussi, c'est impressionnant, hein ? Dieu permet ça pour nous parler. Et vous êtes une église prophétique. Et ce soir, je voudrais que l'on dise, Seigneur, à partir de maintenant, je ne veux plus voir mes problèmes comme mes problèmes. C'est le fardeau que tu m'as confié. Et savoir louer le Seigneur, c'est pas facile ce que je vous dis. Mais je suis passé par une crise. Ça a été facile, particulièrement parce que j'ai perdu mon papa. Et j'ai perdu deux papas. J'ai perdu mon papa, et le Seigneur était bon parce que jusqu'à l'âge de 92 ans, mon papa a servi le Seigneur. Il a prêché, il conduisait sa voiture. Et puis, ça a été le 14 juillet, une dernière prédication. Ça tombe mal que ce soit le jour républicain, mais c'est comme ça. Mais peut-être sa signification. Et il a prêché. Oh, c'était extraordinaire. Mais mon père a été étonnamment prophétique. Il a prêché sur la victoire au travers de la persévérance. Vainqueur. Tu es vainqueur par ta persévérance. La foi appelle la persévérance et l'endurance. Et les trois mois, dès qu'il est tombé malade, le Seigneur m'a tout craqué, les reins, tout allait mal, le cœur, tout était usé. Et ça faisait déjà un an qu'il me disait, à 91 ans, il a des excuses, fiston, je vieillis. Bon, quand on dit ça à 91 ans, il faut s'attendre qu'il y a un pied qui va glisser vers le tombeau. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai crié à Dieu. Tout de suite, ma maman m'a téléphoné. J'ai dit, OK, Seigneur. J'ai dit, cette maladie. Et tout de suite, le Seigneur a dit, non, c'est son heure, je l'appelle. Et oh, je t'en supplie, Seigneur, qu'il puisse régler toutes ses affaires. Donne-lui au moins 3 mois. Et Dieu est bon, il lui a donné 3 mois et 3 semaines. C'est bon. Hein? Et la deuxième supplication, j'ai dit, Seigneur, j'ai un planning 2 ans à l'avance. Comment je vais faire ? Comment je vais faire avec mon planning ? Je crie à Dieu. Et puis, il y a quelqu'un, une prophétesse d'Écosse qui venait au Mont Horeb, je crois que... qui a dit, écoute, je reçois une parole du Seigneur, sois dans la paix, parce que tu seras auprès de ton Père pendant les derniers jours quand il quittera. Et ça a été une grande grâce du Seigneur, un immense cadeau. J'ai pu être là, il a pu s'éteindre pratiquement dans mes bras. Et ça, je n'oublierai jamais cet instant unique où et c'est en rapport avec les fardeaux, vous voyez. C'était pour moi, c'était, Seigneur, comment je vais faire. Et Dieu a été fidèle. Ça faisait déjà un an et demi ou plus, je ne sais pas, où chaque fois que mon père est mort le 10 novembre, et chaque fois que je mettais un... Oui, il est mort le 10 novembre. Le 11 novembre, c'est la Saint-Martin. Tiens, j'y pense maintenant. Mais enfin, passons. Chaque fois que je voulais mettre un séminaire ce week-end du 10-11 novembre, chaque fois, il était annulé. Et au bout de la quatrième, cinquième fois, je ne sais plus, je dis, oh, Seigneur, il y a un problème là. Alors, j'avais dit au président, écoute, je n'ai jamais le temps d'aller te voir à Perpignan, je fais une visite. Non, ce n'est pas la peine, le Seigneur ne veut pas de séminaire ce week-end. Mais là, c'était, je ne sais pas pourquoi, les églises étaient aimantées pour annuler la date ne convenait à personne. 2 ans à l'avance, tu es d'une précision, mais époustouflante. Et je me souviens, ça a été terrible, mon père a beaucoup souffert. Mais oui, parce que c'est là où on se rend compte que quand nous allons quitter la terre, eh ben, il faut être délivré d'esprit. Mon père n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Bon. Et je vois encore, je rentre dans la chambre de mon papa, il y avait 13 anges qui étaient là. Oh, j'étais dans la cuisine, j'allais prendre mon petit déjeuner, et puis brusquement je regarde ma maman, c'est comme si, il y avait comme un ange qui s'est dépêché, vous. On s'est précipité dans la chambre, et je vois, je n'oublierai jamais, c'est-à-dire, il y en avait 6 à sa droite, 6 à sa gauche, un au-dessus, ils étaient là, mais c'était époustouflant. Mais alors, ils étaient décorés, ils avaient comment ça s'appelle ? Des étoiles, ils avaient des étoiles. En fait, ils étaient, dis-donc, mes amis, on fait la fête quand on arrive. Quand on arrive là-haut, on fait la fête. Peut-être qu'on n'est pas pressé pour y entrer, mais en tout cas, ça sera agréable quand on y arrivera. Hein. On fait la fête. Et là, je me souviens, ces fleurs, on aurait cru des fleurs, c'était extrêmement joli. Et je vois, et ma maman se dit, ah, tu vois les anges, toi. Alors j'ai dit, ah oui maman, ils sont venus les chercher. Et vous voyez, ils m'ont tous regardé. J'ai dit, regarde, c'est un choc, hein. Vous voyez, votre père, votre mère, là, avec 13 anges, là, si t'es pas cardiaque, il faut avoir le cœur bien chevillé, hein. Alors, Jésus, 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 Jésus. Tu sais, je les comptais, hein. Bon, ils sont tous là, presque. J'étais. Et ils m'ont regardé avec une grande gentillesse. En en disant, tu sais qu'il est attendu. Il est attendu, n'est-ce pas? Et alors là, à ce moment-là, c'est extraordinaire. C'est une expérience inouïe où là, c'est là que tu accompagnes quelqu'un dans la mort. Tu la remets à Jésus. Tu remets à Jésus. Si tu accompagnes quelqu'un qui t'est très cher, c'est ton fardeau que tu remets. Et vous voyez, alors que je m'étais battu, parce que le Seigneur m'avait montré que ma fille qui était enceinte attendait un bébé qui était handicapé des reins, des yeux et des oreilles à cause de la terrible varicelle que ma fille a attrapée au troisième mois de sa grossesse. Et je me suis battu. Et regardez la beauté de Dieu. J'ai crié à Dieu. J'essayais de parler à ma fille, mais il ne fallait pas la traumatiser, sinon elle allait accoucher tout de suite. Il ne fallait pas. Mon gendre sortait de son concours pour être nurse. Il avait des études. Et moi, je voyais. Et je disais, Seigneur, non, ce n'est pas possible. Tu me montres ça, j'ai pleuré, j'ai jeûné. Et un jour, j'ai entendu, ta prière est exaucée. Oh, la bonté de... Et 4-5 jours après, c'était mon papa qu'il fallait porter. Et là, à ce moment-là, Dieu est bon. Il m'a permis des fardeaux. J'avais ce fardeau-là à porter. C'était son fardeau. Et même quand ma petite fille est née, elle avait un bouton. Les docteurs ont dit, ouh là là, il doit y avoir des séquelles dans les reins, dans les yeux. On va voir. Il n'y avait aucune séquelle. Il y avait le bouton qui était en contradiction scientifique des conséquences de la varicelle. C'est ça. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que nos enfants ou nos petits-enfants, n'est-ce pas? Alors là, vous savez, on est déchirés. Alors l'année 2013, attention, les fardeaux, je ne sais pas si vous en avez eu, mais celui qui est devant vous, il a eu sa totale. Hein. Et je crois qu'on est tous en train d'en avoir des totales en ce moment. Et je peux vous dire, mes amis, on passe au laminage. Et c'est sérieux. C'est pour ça que quand je parle des fardeaux, mais Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Et j'étais en train, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu m'as tout donné? Est-ce que tu m'as tout donné? J'ai dit, Seigneur, je suis tombé à genoux, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Ma vie, mon corps, mes pensées, mon cœur, bien sûr, ma famille, mes enfants et tout. C'est, dans le combat, c'était ça. Et après, il a fallu le combat de mon papa. Et ce qui a été terrible, mon papa s'est éteint, évidemment, je ne l'ai pas vu partir, parce que j'étais tellement ému que je suis tombé à genoux. Et je dis, écoute Seigneur, tu fais les choses à la perfection, mais j'étais tellement ému. Vous savez, quand on est dans l'émotion, le prophétique, il disparaît. Hein. On ne peut pas être dans l'émotivité et le prophétique. Moi, ça ne marche pas. Ou bien je vois, ou bien je suis dans l'émotion. Hein. Et puis quelques jours après, j'ai appris que Bob Jones était mort. Et pour moi, ça a été terrible. Ça a été terrible. La mort de Bob Jones a été terrible. Je n'ai jamais rencontré ce prophète. J'ai toujours été très attentif. Je le considérais comme le plus grand prophète dont j'ai entendu parler. Il était d'une finesse au niveau des révélations. Il était d'une finesse. Lui, il voyait. Oh, il était d'une exception. Il y a un certain nombre d'enseignements que j'ai donnés qui sont vraiment, parfois, à travers un apôtre qui le couvrait, bon, je ne le dis pas parce que c'est enregistré quand même, je ne veux pas. Je lui ai transmis des messages, je l'ai vu en vision, j'ai vu son visage en vision, et dans la vision, je voyais qu'il priait pour moi. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je savais qu'il priait pour moi. Pendant 10 ans, il a prié pour moi. Et j'ai dit à son apôtre, j'ai dit, écoutez, je sais qu'il prie pour moi. Et il a dit, bon, ok, c'est ça. Voilà les messages que j'ai. Il y a très peu de prophètes qui reçoivent ce que je reçois. Est-ce que vous pouvez le lui dire, qui me confirme? Ok, c'est bon. Et Bob a dit, il faut que tu continues. Amen. Et il n'est plus là. J'ai perdu un père, j'ai perdu deux pères en même temps. Et bien vous savez, dans la vie, c'est ça. Et c'est à ce moment-là où tu te sens orphelin, n'est-ce pas? Quand on n'a pas de père, on est vrai. Mais est-ce que j'ai le droit de me sentir orphelin? Est-ce que tu as le droit de te sentir orphelin? Tu as un père dans le ciel. Et là, quand tu as eu des modèles, des référents, pendant une grande partie de ta vie, c'était mon cas, Je rends grâce à Dieu parce que mon ministère n'a pu marcher qu'à travers les modèles que Dieu m'a donnés dans le corps du Christ. Et maintenant, ben vous avez un bonhomme, il n'a plus beaucoup de modèles. Je ne veux pas dire que je n'admire pas des frères et tout, mais je n'ai que le Père. Et c'est dans ce moment-là, quand on ne voit plus ceux qui ont été là pour prier pour vous, ceux qui vous ont porté dans les bras, qui vous ont bercé ou changé vos couches, ils sont partis. Il y en a un qui les a changé mes couches spirituelles et les autres les a changé couches naturelles. Bon, ok, on est d'accord. On ne préfère pas y mettre le nez. Mais non, on ne préfère pas y mettre le nez. On a tous eu nos couches et nous sommes tous passés. Il a bien fallu un jour apprendre à marcher dans le naturel, dans le spirituel. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit ceci. Abandonne tes fardeaux. Et là, j'ai appris trop tard. Je ne savais pas. Bob John était mort déjà plusieurs mois, 2-3 mois avant. Je ne savais pas. Et là vraiment, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, comment je peux porter cela? Comment je peux porter cela? Comment je peux porter? Je ne peux pas! C'est trop lourd. C'est trop lourd. Et le Seigneur m'a dit, rappelle-toi, j'ai guéri tes épaules, j'ai guéri ton dos, afin que tu portes mes fardeaux. Ce sont mes fardeaux. Et je voudrais qu'on arrête là le message. La tétrade, alors les deux éclipses, évidemment, les deux éclipses solaires, c'est en rapport avec quelle fête? Vous pouvez la deviner. Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec l'enlèvement d'une partie de l'Église, évidemment. Vous voyez la précision de Dieu avec les éclipses de la lune et les éclipses du soleil? C'est extraordinaire. C'est fantastique. Nous vivons en 2014-2015... la septième tétrade qui annonce un immense bouleversement. Les nations vont trembler. Le monde va trembler. Mais est-ce que toi, tu vas trembler? Je te pose la question ce soir. Est-ce que ce sont tes fardeaux que tu portes? Est-ce que toi, tu vas trembler devant ce qui va venir? Je te le dis dans le nom précieux, puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu n'as pas à trembler. Tu n'as pas à trembler. C'est le temps de la Shemitah. Ça commence en septembre. On est en mai, juin, juillet, août, septembre, dans 4 mois. C'est le temps, la remise des dettes. C'est le temps où les esclaves sont libérés. C'est le temps où le pays, où la terre va être enfin reprendre son souffle. C'est ce temps-là. Ça va durer combien d'années? 2015, 2016, ça dure 3 ans, le jubilé. 2015, 2016 et 2017. Et la troisième année, c'est le top, les 500 ans de la réforme protestante, les 50 ans de Jérusalem. C'est la dernière grande Shemitah, dernier grand jubilé avant le retour de Jésus. Le suivant ne pourra plus être célébré. Pourquoi? Parce que le suivant, le prochain Shemitah, c'est-à-dire les 100 ans de Jérusalem, se feront en même temps que les 2000 ans de l'Église. Or, Jésus a dit que ces choses se produiront. Nous savons donc que le retour de Jésus est imminent dans les 50 années. On ne peut pas dire quand, mais ça veut dire que l'épouse, dès aujourd'hui, dès 7, dès 16, nous devons être prêts. Et je n'ai pas cessé de dire les 4 points, sanctification, adoration. Adoration, qui dit adoration dit que je suis lié au corps, ça on l'a bien compris. C'est parce que la Torah me donne la révélation de l'amour du Père pour mes frères. Et troisièmement, les étudiants, vous vous souvenez? Sanctification, adoration. Tout simplement, la voix prophétique, Dieu parle. Dieu nous fait entrer étape après étape par des nouvelles révélations de gloire. Et quatrièmement, eh bien, tu connais ton territoire, c'est la dimension apostolique de l'Église, c'est l'envoi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on prie. Est-ce qu'il peut y avoir des musiciens, s'il vous plaît? Oui, je voulais m'arrêter à 9h30. Une fois de plus, je me suis trompé d'heure, mais ce n'est pas grave. Ça ne retarde pas. Comment? Ah, prions. La question que je te pose, ce soir, je te pose 2 questions. Maintenant, on a parlé, on sait tous qu'on a des lambeaux religieux en nous, ok? Mais ça, vous allez vous repentir, vous les déposer au pied de la croix de Jésus, ok?